Est-ce que vous aimez recevoir du courrier? Si vous êtes comme moi, quelque chose dans la boîte aux lettres, ça fait plaisir. Du moins, à première vue. Parce que souvent, une fois qu'on ouvre la boîte, on voit du courrier qui n'est pas si réjouissant. Ça peut être une facture, ça peut être une lettre des impôts, ça peut être simplement une publicité. Et en principe, on fait tout de suite le tri, quoi. On voit les lettres qu'on n'a pas envie d'ouvrir tout de suite. Et puis, on va voir les lettres qui sont écrites à la main. Et on va voir les lettres, on va reconnaître la signature ou le nom d'un ami proche, d'un parent. Et alors, ce sont ces lettres-là qu'on a envie d'ouvrir. Imaginez pour un instant que dans votre courrier, vous voyez une lettre qui soit manuscrite. Et qu'au dos, il est marqué Jésus-Christ. Et qu'elle soit vraiment adressée à vous. Quelle serait votre réaction? Wow, peut-être de l'émerveillement. Peut-être une petite crainte quelque part aussi, non? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Est-ce que vous diriez, bon, mais je vais la mettre dans mon plan de lecture? Je crois que je dois lire ce genre de lettre du 15 décembre au 30 décembre selon mon plan de lecture biblique de l'année. Non, bien sûr, vous l'ouvririez avec impatience, avec peut-être du bonheur, un peu mêlé d'inquiétude. Je ne sais pas, pour moi, ce serait peut-être un peu ça. Mais je suis sûr qu'elle attraperait votre intérêt. Vous seriez tout ouïe, vous seriez tous yeux pour lire cette lettre. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons des lettres de Jésus destinées aux églises, c'est-à-dire à nous qui en sommes les pierres vivantes. Et nous avons commencé la semaine dernière à ouvrir cette première lettre. C'est une lettre publique à l'église l'église d'Éphèse, mais bien sûr c'est une lettre ouverte que nous avons pu lire aussi. Nous avons rappelé qu'il fallait écouter, si possible, ton Sauveur parler librement. It's just a mnemonic way to remember the churches. C'est un moyen mnémonique pour se rappeler les églises Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Écoute, si possible, ton Sauveur parler librement. Nous avons vu que ces sept églises étaient représentatives de l'église au sens large. À l'époque de Jean, elle montrait les problèmes et les qualités qui pouvaient se trouver dans l'Église au sens large. Et c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Nous avons aussi parlé d'une analogie, en fait, c'est très intéressant, de voir que chacune de ces églises peut correspondre à des qualités, des défauts de l'église en général au cours des siècles. Elles sont adressées à un destinataire à une église, au responsable d'une église, à l'ange d'une église. Et là, on va voir aussi que le nom de chaque église a une signification en rapport avec la teneur du message. Et on peut souligner au passage que toutes ces coïncidences ou ces rapports, le fait que lorsqu'on suit la route circulaire qui fait le tour de ces églises, on voit l'histoire de l'Église universelle. On voit la teneur du message, on voit le nom des endroits, on s'aperçoit que la Bible est un livre merveilleux. Nous avons dit que le nombre 7, c'était un nombre significatif dans la Bible, ça signifie quelque chose qui était complet. Pas nécessairement parfait au sens d'une perfection absolue, mais de ce qui représente l'ensemble. Et nous avons dit que 7 fois, on trouvait le nombre 7, 49 fois dans la Révélation, dans l'Apocalypse. 7 fois 7. Nous avons remarqué aussi que, et nous le confirmerons au fur et à mesure que nous étudierons ces sept lettres, que chaque lettre comporte sept éléments. Le nom d'un destinataire, une description de Jésus extraite du premier chapitre de l'Apocalypse. Et encore là, c'est la description qui est choisie vise à adresser les problèmes ou les compliments qui sont adressés à l'Église. Il y a un rapport. Donc, un destinataire, une description de Jésus. Troisième élément, un ou des compliments. Ça, c'est la partie qu'on aimera lire quand nous ouvrons la lettre de Jésus. Mais il peut nous adresser le quatrième élément, ce sont des reproches, un ou des reproches. Et là encore, c'est un reproche basé sur la vérité, parce que Jésus nous dit qu'il sait tout ce que nous faisons. Mais ces reproches ne sont pas destinés à nous accabler. Ils sont destinés à nous faire prendre conscience de la nécessité du cinquième élément, qui sont des mesures correctives. C'est souvent un problème que nous avons parce que nous sommes remplis d'orgueil. Et nous n'aimons pas entendre des critiques. Mais la Bible nous assure qu'il est bon d'être corrigé. Et là, nous avons non seulement la critique, mais nous avons la solution. Le sixième élément, c'est la promesse pour le vainqueur. C'est-à-dire une promesse pour celui qui va mettre en action ces corrections nécessaires. Et puis finalement, il y a un avertissement qui est répété 7 fois que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça, c'est comme un leitmotiv, c'est répété 7 fois. Nous avons dit la semaine dernière que souvent Jésus répétait les choses deux fois. Il disait en vérité, je vous le dis. Mais ici, il répète sept fois. Prêtons-lui attention. Aujourd'hui, nous allons entamer, voir l'église de Smyrne, le message, la lettre de Jésus. On a dit des fois que, j'aime bien ce terme, que Jean, c'était le facteur de Patmos. L'église, la lettre vient de Jésus. Elle est adressée, nous allons lire maintenant, du verset 8 du chapitre 2. Jusqu'à chapitre 11. Page 277 pour ceux qui ont une petite Bible à la colombe bleue. Je lis dans la version de la colombe donc. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Amen. Encore une fois, c'est pas seulement une lettre écrite à une église au premier siècle de notre ère, dans un endroit lointain. C'est un message que Dieu veut que nous recevions, que nous entendions. Non, oui. Smyrne. Nous avons dit que l'ange de l'église de Smyrne, on pouvait considérer que c'était un messager. Ange, ça veut dire messager. On a souvent des messagers célestes, mais ça peut être aussi un messager humain. Et là, on peut penser que c'est le responsable de l'église de Smyrne qui reçoit cette lettre. Le nom Smyrne est intéressant. C'est le mot qui signifie la mire. La mire, c'est pas pour tirer sur un fusil, n'en déplaise à Laurent, qui est un grand chasseur. Donc la mire, c'est M-Y-R-H-E, qui est une résine aromatique, qui avait un goût amer, et c'était devenu un symbole d'amertume, de souffrance. Vous vous souvenez, sur la croix, Jésus avait refusé la myrrhe, la boisson qu'on lui proposait, qui était faite à base de cette résine pour calmer les douleurs. Jésus voulait souffrir à l'extrême pour nous, il ne voulait pas de calmant pour prendre soin de nos péchés. C'est le même mot grec dans, vous vous souvenez, des mages venus d'Orient, dans Matthieu 2. Ils offraient de l'or qui est symbole de royauté à Jésus. De l'encens qui est un symbole de divinité. et aussi de l'avenir, ce symbole de souffrance, de la souffrance à venir qui attendait Jésus. C'est intéressant, dans Ésaïe 60 ou 61, il est question des nations qui porteront de l'or et de l'encens à Jérusalem. Il ne sera plus question de cette souffrance parce que ce sera Christ glorifié. Cette résine avait été la base d'un commerce qui avait fait la fortune de la ville de Smyrne. C'était devenu un grand port et en l'an 23 avant Jésus-Christ, il y avait été construit un temple pour célébrer le culte de l'empereur romain, Tibère. The Roman Empire named Tiberius. C'était un centre d'adoration païen de l'empereur. Les gens devaient dire César est Seigneur. Les chrétiens de Smyrne disaient Jésus-Christ est Seigneur et personne d'autre. Et ça leur valait d'être persécutés, brûlés, décapités, crucifiés. Nous vivons dans un monde où c'est vrai que des fois les valeurs de l'État peuvent aller à l'encontre même des valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, des gens protestent à Paris contre le Pax. Il est clair que la Bible ne nous invite pas à la révolte, à l'insoumission. The Bible doesn't teach us to revolt. Mais nous avons la responsabilité de faire connaître nos positions fermement et de ne pas accepter de compromis. Des fois, l'État aimerait bien nous dire que le gouvernement est Seigneur. En tant que chrétien, nous devons être vigilants. Eux, c'était clair, s'ils ne disaient pas César est Seigneur, c'était la persécution. Le deuxième élément que nous trouvons, bien sûr, c'est encore une description de Jésus. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et là aussi, c'est quelque chose qui va encourager ces chrétiens persécutés. Ça leur rappelle que Jésus est Seigneur, qu'il est souverain, qu'il a vaincu la mort, qu'il est revenu à la vie. Plus tard, la fin du message les encouragera aussi à ne pas craindre la mort physique. Et encore une fois, je veux rappeler l'importance du message de la résurrection. Je le rabâche souvent, mais c'est quelque chose de fondamental. Paul lui-même disait dans 1 Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes des hommes les plus à plaindre. Et la résurrection, c'est ce qui différencie Jésus de tous les autres grands chefs religieux. Il peut y avoir des religions, des fois, qui ont des préceptes moraux respectables. Mais le tombeau de Mohammed n'est pas vide. Celui de Confucius n'est pas vide. Celui de Bouddha n'est pas vide. N'ayez pas peur d'être intolérant. C'est pas vous qui êtes intolérant, c'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il sait de quoi il parle, parce qu'il est ressuscité, il est le seul. N'ayez pas honte de Jésus. Parce qu'il y a la pression de la valeur de l'idole de la tolérance. La tolérance, encore une fois, c'est une belle chose quand ça permet d'éviter la haine, la guerre, les morts. Mais la tolérance, elle n'a rien à faire lorsqu'il s'agit de rechercher la vérité. Comme je dis, si vous me dites que 2 et 2 font 5, j'irai pas dans votre banque, si vous êtes banquier. Sous prétexte de tolérance, on pourrait dire pourquoi pas. Et ce thème de la résurrection, on le retrouve tout au long du Nouveau Testament parce qu'il est fondamental, il est, j'allais dire, crucial. Il vient de la croix. Troisième élément, des compliments de Jésus. Jésus nous aime. Jésus vous aime personnellement. Et il veut vous encourager. Ce matin, peut-être que vous vous sentez loin de lui, mais il veut vous faire des compliments. Parce que peut-être un jour, vous l'avez accepté dans votre cœur. Peut-être que vous ne l'avez pas encore accepté, mais vous êtes intéressé à ce qu'il a à vous dire. Et là, Jésus encourage les membres de cette église en leur disant « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Tribulation, c'est un mot très fort. À l'origine, c'était la pression qu'on exerçait sur des olives, par exemple, pour en faire sortir l'huile. Le mot tribulation français vient du latin qui désignait une herse à battre le blé. C'est donc l'idée d'une épreuve très difficile, d'un tourment. Et peut-être qu'à un moment donné, peut-être même en ce moment, il y a des sentiments d'être écrasé par une épreuve. Que ce soit un décès d'un être cher, une perte de travail, une maladie grave. On a vraiment l'impression d'être sous la presse et la pression. On a l'impression qu'on va craquer. Et vous vous dites, je suis seul. Mais Jésus nous dit qu'il est avec nous, si nous sommes avec lui. Il voit, il connaît la tribulation que, par laquelle vous passez. Il voit aussi leur pauvreté. Il voit aussi votre pauvreté. Peut-être vous dites, mais je suis pas si pauvre que ça, je mange à ma faim, j'ai un appartement. Alors c'est vrai qu'à l'époque, parce que à cause des persécutions, sans doute, ils n'avaient pas de moyens économiques pour vivre. Mais cette idée de pauvreté, c'est de reconnaître que nous n'avons rien en nous. C'est le même mot utilisé par Matthieu lorsqu'il rapporte les paroles de Jésus disant « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ». C'est la pauvreté de l'indigent qui réalise, qui est prêt à admettre qu'il n'a plus rien. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus connaît cette pauvreté et pourtant il dit, et pourtant tu es riche. Tu es riche pourquoi? Parce que tu me connais. Parce que tu peux recevoir tous les trésors spirituels en Christ Jésus. Comme on l'a dit ici, c'est la goutte d'eau. Notre vie terrestre est une goutte d'eau dans l'éternité de l'océan. Dans l'océan d'éternité, pardon. Et nous savons bien, intellectuellement, que la richesse n'amène pas le bonheur. Mais pourtant, notre monde en fait une idole. Être riche, pouvoir faire partir de la jet set. Et c'est là qu'il y a des gens qui se suicident. Parce que malgré leur richesse financière, ils sont pauvres spirituellement. Il est important de donner de l'importance à ce que Christ pense. Ce qui compte, c'est pas comment nous nous voyons nous-mêmes, comment nous voyons nos circonstances, mais comment Dieu les voit et les apprécie. Nous vivons dans une époque où il faut avoir cultivé la confiance en soi-même. Il faut soigner son image de soi-même. Il faut paraître. Nous sommes dans la génération de l'image. Bien souvent sans substance derrière. Nous nous laissons tromper, quelquefois, souvent même. Mais Christ n'est jamais trompé. Et peut-être que vous vous dites, je suis un bon à rien, je suis un chrétien infidèle. Et Jésus est là en train de prier pour vous auprès du Père. Et il dit, patient, j'ai pas encore fini avec toi. Je vais t'aider à être fidèle. Je vais t'aider à parler de moi. L'ennemi aimerait nous faire croire que cette image que nous avons de nous-mêmes, souvent très négative, au point de vue de notre foi, c'est la réalité. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et ça, ça nous donne une valeur infinie. Le sang du Fils de Dieu. Ça devrait aussi nous donner une haine du péché. De réaliser le coût qu'il a fallu payer pour le vaincre. On dit souvent que la gravité d'une maladie se mesure à la gravité du traitement qu'il faut pour la combattre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des maladies plus graves que le péché? Non, parce qu'il n'y a pas eu de remède plus grave, plus dramatique, plus coûteux à Dieu. Prions pour avoir cette horreur du péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose qui gêne, c'est quelque chose qui est contraire à Dieu. Et quand je vous parle, je me parle à moi-même. Je prie aussi. Il leur parle des calomnies de ceux qui se disent juifs. Les calomnies fusées autour des chrétiens, on disait qu'ils étaient des cannibales puisqu'ils disaient manger et boire le sang de Christ. Et on voit que les calomnies, les critiques, les persécutions venaient surtout des juifs. Plus exactement, de ceux qui se disent juifs. Le mot juif, à l'origine, vient du nom de Judas. Le mot qui signifie la louange de Dieu. Et trop souvent, on associe juifs maintenant avec la nation d'Israël. Mais Jésus lui-même disait, n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Don't say that, you have Abraham as a father. Car je vous déclare que c'est de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et Jésus disait à ces juifs qui le persécutaient, vous avez pour père le diable. Tout le passage de Jean 8, 31-47 en parle, mais peut-être on peut noter Romains 2, 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dans la même lettre, Paul nous apprend qu'en fait, Dieu n'a pas fini avec les Juifs en tant que nation. Les Juifs, c'était le peuple que Dieu s'était choisi, mais s'ils le rejettent dans leur cœur et qu'ils n'ont pas cette circoncision du cœur cette séparation du péché de la chair, alors ils ne sont pas vraiment juifs. Ils se prétendent juifs. They're not truly Jews. Ce que dit l'apôtre Paul. Qui est derrière ces persécutions? Il est question d'une synagogue de Satan. Satan, donc, est derrière ces persécutions. Lui dont le nom signifie accusateur, l'adversaire. Ces persécutions, on en a quelques échos par la tradition des premiers siècles où on raconte l'histoire de Polycarpe. C'était en fait en l'an 150 et suivant, il était le pasteur de l'église de Smyrne, le responsable. Il avait 86 ans. Et les Juifs avaient amené du bois pour son bûcher le jour du sabbat. Ils avaient violé le sabbat pour faire mourir Polycarpe. Et le bourreau lui avait dit, mais pourquoi tu renonces pas au Seigneur et je te laisserai la vie sauve? Et sa réponse avait été, pendant 86 ans, j'ai servi le Seigneur. Et il ne m'a jamais fait défaut. Comment pourrais-je renier mon roi et mon sauveur? Et le bourreau d'ajouter, mais le feu va être brûlant, vieil homme. Polycarpe répondait, pas si brûlant que le feu dont font l'expérience ceux qui rejettent mon Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'on passe les années avec le Seigneur, et qu'on l'aime de tout son cœur et qu'on cherche à le servir, je crois qu'on peut tous dire, il ne nous fait jamais défaut. Reproche? Eh bien non, il n'y en a pas dans cette lettre. Il n'y a pas un seul reproche. Et pourtant, au verset suivant, Jésus va leur promettre des souffrances. Preuve, si besoin était, que la souffrance n'est pas nécessairement une punition pour un manque de foi. Et au verset 10, il leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est encore là le diable qui est derrière ces persécutions. Souffrir, être éprouvé, avoir des tribulations. Ce n'est pas très réjouissant comme programme. Pourtant, Jésus nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous Plus loin, Paul nous dit dans 2 Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Quelque part, notre chair à bord rejette violemment la souffrance. Il promet là une tribulation de 10 jours. Il y a plusieurs façons de voir la chose. On peut dire que c'est seulement 10 jours, 10 jours physiques, mais ça paraît court pour une persécution. Certains pensent que 10 jours, en fait, ça veut simplement dire que ça, il y a un début et une fin, c'est une période limitée. Mais lorsqu'on considère aussi l'histoire à partir de l'an 100 jusqu'à l'an 300, on s'aperçoit qu'il y a eu une succession de 10 terribles persécutions qui ont fait plus de 6 millions de morts parmi les chrétiens. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner les noms, mais sachez qu'à chaque période, il y a eu un empereur romain qui s'acharnait contre les chrétiens. Jésus leur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il les appelle à être des martyrs, on dirait aujourd'hui. Le mot martyr en grec signifie simplement témoin. Mais à l'époque, être témoin de Jésus-Christ, ça voulait dire souvent avoir à aller jusqu'à la mort. Et en fait, la mort ne faisait pas de vous un martyr. Elle ne faisait que prouver que vous en étiez un. Peut-être vous vous dites, est-ce que moi je serais un témoin capable d'affronter la mort? Peut-être qu'on peut se dire oui intellectuellement, mais je crois que nul ne peut présumer. Et des fois, il est peut-être plus facile de mourir que de vivre pour Christ. Des fois, vivre en refusant la compromission, en refusant le péché, en crucifiant notre chair, ça peut être ça aussi, être fidèle jusqu'à la mort. Il y avait un grand missionnaire qui avait dit, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand pour que je ne puisse le faire pour lui. Être fidèle jusqu'à la mort. Vous savez, cette myrrhe, on disait que pour qu'elle dégage une bonne odeur, il fallait l'écraser. J'ai, dans notre cave, souvent des problèmes de moisie. Et nous avons remarqué que si on mettait des plantes de lavande séchées, ça combattait le moisi. Mais on a remarqué que pour vraiment lutter efficacement, il fallait écraser ces grains de lavande. Et cette église de Smyrne, elle est écrasée. Mais elle dégage une odeur qui est de bonne odeur à l'Éternel. Et Là encore, c'est dans ces épreuves, jusqu'à la mort, ce qui compte, c'est de savoir que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Jésus leur promet la couronne de vie. Une des couronnes qu'il promet à ceux qui le servent et l'aiment. C'est intéressant, dans Jacques 1, 12, il est dit « Heureux l'homme qui endure la tentation ou l'épreuve, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Paul disait, il parlait du moment de légère affliction, parlant de sa vie de persécution, qui produisait pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et finalement, nous retrouvons l'avertissement, verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La promesse au vainqueur, c'est « Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » Plus loin, au chapitre 20, nous verrons que la seconde mort, c'est l'étang de feu où sont jetés ceux dont le nom n'est pas trouvé dans le livre de la vie. Donc, cette seconde mort, c'est le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges et pour tous ceux qui veulent les suivre là. Quelqu'un a constitué le théorème spirituel suivant. Si vous êtes né une seule fois, vous mourrez deux fois. Mais si vous êtes né deux fois, vous ne mourrez qu'une seule fois. Cette deuxième naissance, bien sûr, après la naissance physique, c'est la naissance spirituelle, la naissance d'en haut, la nouvelle naissance. Et si nous sommes en Christ, alors nous n'aurons pas à subir cette séparation éternelle d'avec Dieu, cet étang de feu. Donc, né une fois, mort deux fois, né deux fois, mort une fois. Cette église, dans l'histoire de l'église en général, elle représente l'église persécutée entre l'an 100 et l'an 300. Il a été dit que le sang des martyrs, c'est la semence de l'église. Aujourd'hui, on peut voir le résultat de la persécution en Chine et en Russie, où l'Église qui a été persécutée est en train de prospérer spirituellement et en nombre. Qu'est-ce que ça nous dit à nous ? Nous vivons dans une société qui essaye de nous protéger. Nous avons le confort. Nous recherchons toujours plus de plaisir et plus de confort. Nous avons des systèmes de protection sociale. Nous voulons toujours plus. En soi, ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises, mais il semble qu'elles aient tendance à nous amollir. Là encore, je parle pour moi. Un petit bobo, Tout de suite, c'est le 4-can. Le plus petit problème prend des images, des perspectives de crise. On oublie la valeur indispensable des épreuves. Même au début du siècle, ces soldats qui allaient se faire tuer par idéal, à Verdun ou pendant le débarquement, ça nous paraît inimaginable aujourd'hui. Alors je ne vous demande pas d'aller vous faire tuer sur le champ de bataille. Mais le Seigneur nous demande peut-être d'être prêt à sacrifier un peu de confort. Un peu de ressources pour aider le travail du royaume et dans tous les sens possibles et imaginables. Et je vous rappelle encore que cette église, elle ne reçoit aucune critique. Et si j'avais une lettre ce matin dans ma boîte aux lettres, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de critique. Alors entendons ce que l'Esprit dit aux églises et nous dit à nous. Amen. Rappelez-vous, le Seigneur connaît les circonstances douloureuses de votre vie. Courez vers lui. Il est un refuge. Il est avec nous, il nous soutient. Gloire à Dieu. Amen. Prions. Seigneur, tu vois que c'est quelque part, même je le reconnais, c'est pas un sujet dont on aime parler. Mais Seigneur, tu nous promets que si nous vivons pour toi, alors un signe, ça va être cette opposition, ces épreuves, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons de nous donner du courage pour toi. Seigneur, donne-nous d'être de vrais témoins. Nous n'avons pas reçu un sentiment de peur, Seigneur, mais tu veux que nous ayons de confiance, du courage, du savoir, de l'amour, Seigneur, pour partager ta bonne nouvelle. Seigneur, merci. Dans toutes ces circonstances, nous pouvons nous réfugier sous tes ailes. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, qu'ils puissent vraiment recevoir ce que tu as pour eux ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu me dis aussi. Et peut-être parmi nous, il y en a encore qui ne s'en est qu'une fois. Peut-être que vous réalisez que si vous êtes dans cette condition, vous aurez à être séparé éternellement de Dieu. J'aimerais, si vous le désirez, que vous puissiez prier pour recevoir le Seigneur dans votre cœur. Je vous demanderai de répéter en silence avec moi une prière comme ceci. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, je reconnais que tu es mort par amour pour moi sur la croix. Tu as été fidèle jusqu'à la mort, Seigneur. Et Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te demande de venir en moi, Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur. C'est-à-dire que c'est toi qui vas guider ma vie maintenant. Seigneur, je te demande aussi d'être mon sauveur. Et que la mort physique ne soit que le début d'une longue vie éternelle avec toi. Je me détourne de mes péchés, de toutes les choses qui ne te plaisent pas, et je viens à toi, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la victoire contre le péché. Par le nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'il y en a qui auraient prié cette prière maintenant? Encore une fois, c'est une prière que vous pouvez faire ici ou vous pouvez la faire dans le secret de votre cœur, mais elle est vitale. Amen. Amen. Nous allons prendre un temps pour recevoir la Sainte Cène. Je vais demander à Rain et Jean de bien vouloir passer les emblèmes, de les prendre d'abord. Michael va nous lire un passage, s'il te plaît, Michael.
Oui, 1 Corinthiens 11, 23 jusqu'à 32. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns aux autres.
Pendant que Rain et Jean vont passer les emblèmes, je vais vous demander de les garder pour attendre qu'on les ait tous reçus, mais prendre ce temps pour confesser vos péchés au Seigneur. Nous nous souvenons de ce que Michael a lu. Nous devons nous examiner nous-mêmes, demander pardon au Seigneur pour les fautes que nous avons commises. Demander aussi pardon aux frères et aux sœurs auxquels vous avez pu faire du tort ou du mal. Et je vous rappelle aussi que c'est cette Sainte Cène qui nous rappelle le sacrifice de Jésus et son retour, c'est réservé à ceux qui ont déjà reçu dans leur cœur le Seigneur. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demanderai de ne pas prendre ces emblèmes, mais de prier, de demander au Seigneur de se manifester dans votre cœur. Nous allons prendre un temps de silence maintenant pendant que Mike et Rain et Jean passent les emblèmes. Yeah.